Cause à effet, le magazine de l'environnement.
De Héros à Cupidon, que sait-on de la sexualité des poissons? Il existe des chercheurs très sérieux qui travaillent tous les jours à tenter de comprendre et de mettre en lumière la vie sexuelle des poissons et à en percer les mystères. Dans ce milieu marin pas toujours facile d'approche, ils mènent des études scientifiques minutieuses qui nous révèlent l'intelligence de ces espèces vivantes, leur art de communiquer, de s'alimenter, de se reproduire, de se défendre. Une véritable organisation sociale au cœur de l'un des mondes les plus captivants pour le grand public. Car il y a une profonde fascination pour le monde de la mer et des océans, et cet attrait pour les poissons ne faiblit pas. Si l'on regarde le nombre des adeptes de l'aquariophilie, par exemple, à travers le monde, celui des visiteurs d'aquariums publics, ou encore le nombre de mordus de la pêche sportive et autres pratiques liées au monde du silence. Mais que sait-on de l'art de se reproduire chez les poissons? Du répertoire amoureux prodigieux qu'ils ont développé. On s'y attarde aujourd'hui, le temps d'une émission sur France Culture avec l'un de ses chercheurs enseignants passionnés par les poissons. Bonjour Jacques Brûlé.
Bonjour madame.
Vous êtes professeur émérite à l'université de Perpignan et vous signez avec votre collègue complice Jean-Pierre Quignard un nouveau livre intitulé « La vie sexuelle des poissons », un livre paru chez Belin. Et je signale aussi le précédent « Pas si bêtes les poissons », c'était son titre, et toujours paru chez Belin, mais désormais en version poche. Et puis en seconde partie d'émission, vers 16h45, en partenariat avec le service Planète Sciences du Monde, les Échos de la Terre accueilleront Claire Nouvian, journaliste, documentariste et fondatrice de l'association Bloom, qui lutte contre la surpêche et pour la protection des fonds marins. Ce sera l'occasion avec elle de faire un point sur les victoires et les chantiers en cours dans ce domaine. Une plongée aujourd'hui donc dans les océans et dans cette émission préparée par Catherine Donné et Anaïs Morales, réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique aujourd'hui Jean-Louis Deloncle. Bonjour à tous et bienvenue.
Dans l'obscurité, le vieux devinait l'aube. Il entendait en ramant les vibrations des poissons volants qui jaillissaient de l'eau, le sifflement de leurs ailes raides quand ils s'élançaient dans la nuit. Il aimait beaucoup les poissons volants, c'était pour ainsi dire ses seuls amis sur l'océan.
On vient d'entendre un extrait du film Le vieil homme et la mer, film sorti en 1958, Jacques Brûlé, parce que la littérature, le cinéma se sont emparés très tôt de ce rapport avec les océans, les hommes et les océans, fascination, appréhension, et en même temps un rapport que l'on retrouve dans la littérature ancienne, bien sûr, dans ces civilisations assyriennes, égyptiennes, incas, où d'ailleurs le poisson occupait une place de choix, hein, parfois de véritables dieux d'ailleurs.
Ah oui, il y avait les dieux poissons, oui. Chez les Égyptiens, les Assyriens, oui, oui. Il y avait une façon de leur donner une importance dans la vie sociale des populations. Absolument, ils étaient déifiés, oui. Pour leur prolificité, souvent.
Et on reconnaissait peut-être aussi le fait que ces poissons faisaient partie des premiers organismes vivants aussi. Au commencement, était le poisson.
Oui, enfin, si l'on oublie que précédemment, il y a eu tous les invertébrés et que les bactéries nous ont de loin précédé aussi.
Combien d'espèces de poissons connues à ce jour, Jacques Brûlé?
On évalue le nombre des espèces connues et décrites, inventoriées par les spécialistes, à un peu plus de entre 30 et 35 000. Mais on pense qu'il y en a encore un nombre conséquent qui sont à découvrir, à la fois dans les zones peu connues comme les eaux amazoniennes, où il y a foison d'espèces nouvelles à décrire, et puis dans les fonds abyssaux, où on est loin d'avoir tout inventorié.
Et on en découvre de nouvelles espèces comme ça chaque année ?
Oui, il y a chaque année des descriptions d'espèces nouvelles qui enrichissent la liste déjà longue.
Alors des tailles, des formes, des couleurs différentes.
Oui, et parfois donc aussi des comportements qui sont propres à certaines populations et qui avaient échappé aux observations antérieures.
Oui. Alors vous parlez des observations, pas facile quand même on imagine, hein, pour les chercheurs. Comment est-ce qu'on travaille sur ces poissons, sur leur façon de vivre, de communiquer, de se défendre, de s'alimenter, de se reproduire? Dans le milieu naturel, c'est certainement plus difficile.
Oui, bon, un certain nombre d'observations ont été réalisées en plongée par des amateurs. Les études scientifiques sont beaucoup plus difficiles à mener et ne cachons pas qu'elles sont loin d'être prioritaires dans les programmes nationaux et internationaux. Afficher un programme d'études de galipettes de poissons n'a jamais motivé le CNRS et la direction de l'enseignement supérieur. Et dans tous les pays, l'éthologie est quand même souvent la parent pauvre des programmes de recherche.
Alors, et en même temps,
ce sont plutôt des amateurs éclairés et qui font le job.
Et si on regarde votre livre, Jacques Brûlé, on se rend compte que malgré tout, ces travaux existent. Parce que là, vous nous livrez, et on va rentrer assez vite dans ce sujet bien évidemment aujourd'hui, vous nous livrez quand même une connaissance scientifique assez précise de cette sexualité des poissons.
Oui, mais je tiens bien à préciser que notre travail commun avec Jean-Pierre Quignard a été de prospecter la littérature scientifique internationale pour en relever les meilleures pépites, plus que nous n'avons travaillé nous-mêmes, puisque quand nous avons dirigé nos labos, nous avions des préoccupations, entre guillemets, alimentaires, qui étaient prioritaires pour obtenir des subsides conséquents. De sorte que c'est devenu un peu un violon d'ingre que de s'intéresser au comportement quand on a du temps, quand on a des loisirs et qu'on a la possibilité, grâce à Internet, de puiser dans une littérature mondiale foisonnante et qui fait référence à beaucoup de travaux américains, japonais et très très peu européens et français. Reconnaissons-le.
Alors partons à la rencontre de ces poissons, rappelons-le d'ailleurs, qui sont multiples, variés, on a compris 30 000, 35 000 espèces, d'une durée de vie d'ailleurs, certains vivent 3 mois, d'autres jusqu'à 200 ans. On a ce fourmillement autour de nous, partons à leur rencontre à travers cet extrait du film Les Seigneurs de la Mer, un film de Rob Stewart.
Les Galapagos abritent l'une des plus grandes réserves marines de la Terre. Ici, les requins sont appréciés et protégés. Le requin marteau est l'une des espèces les plus méconnues. C'est un animal incroyablement craintif. Comme tous les requins, il possède deux sens de plus que l'homme. Une ligne latérale courant le long de son corps lui permet de détecter les vibrations dans l'eau. Sa tête est un système sensoriel géant, capable de capter les champs magnétiques. Cela lui permet de dénicher des proies cachées et de percevoir les battements de mon cœur. Il arrive ainsi à savoir si je suis excité ou effrayé. Le requin marteau craint tellement l'homme que si je ne suis pas calme et que mon cœur bat trop vite, il ne m'approchera pas. Le requin marteau utilise le champ magnétique terrestre pour longer les dorsales sous-marines, parcourant ainsi des milliers de kilomètres à travers les océans. Le requin est plutôt de nature solitaire. Toutefois, les requins marteaux se rassemblent près de quelques sommets coralliens bien précis pour s'accoupler.
Jacques Brûlé, les requins marteaux, des comportements, des stratégies qui montrent, on va le découvrir avec vous, une grande intelligence de ces poissons pour communiquer, se protéger, s'alimenter et se reproduire. Alors tout d'abord, peut-être d'une manière générale, est-ce qu'on doit parler d'intelligence des poissons ou d'aptitude originale ou autre ?
La question de l'intelligence, c'est un vaste débat. Disons qu'ils ont des formes d'intelligence en faveur de l'exploitation optimale de leur milieu. Ce sont des éléments qui sont toujours discutés, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont des aptitudes cognitives qui ont été étudiées en laboratoire avec des systèmes de projection d'images vidéo qui sont reproductibles et qui permettent des identifications, des mémorisations. On sait par exemple, c'est un détail mais il est intéressant, qu'un grand nombre d'espèces vivant en aquarium sont capables d'identifier, de reconnaître le visage de l'aquariologiste qui les nourrit quotidiennement. On a fait des projections en images 2D, 3D de différents visages et les réactions des poissons sur une image projetée au-dessus de l'aquarium, les réactions ne sont pas les mêmes, ils identifient un visage humain. ce qui est quand même une aptitude cognitive qui n'est pas banale.
Et alors donc, par rapport à ce répertoire amoureux que vous nous offrez, et avec sa très grande richesse, partons peut-être sur les catégories que vous avez établies. 5 grandes catégories de comportements amoureux. Alors tout d'abord, peut-être les congénères de sexe opposé, j'aurais dire un petit peu le format classique. Est-ce que c'est ce format classique que l'on retrouve ou pas forcément dans ce monde des poissons?
Les mâles et les femelles sont destinés à se rencontrer et à chercher à procréer pour l'intérêt même de la population et de l'espèce. Donc, les rencontres amoureuses font appel à des signaux de différentes catégories émis par les mâles et reçus par les femelles, mais avec réciprocité, des signaux visuels, auditifs, olfactifs,
chimiques,
tactiles parfois,
et même électriques.
Il y a un dialogue électrique qui s'établit entre certaines espèces qui émettent des décharges. Les signaux ayant à la fois valeur de reconnaissance pour éviter des descendances bâtardes. Donc il faut respecter la pureté génétique de l'espèce en ne s'unissant qu'à un représentant de la même espèce. Et puis alors, l'identification des meilleurs de ces représentants. Et alors en particulier, ce sont les mâles qui se proposent et qui cherchent à se mettre en valeur. Et les femelles apprécient leur qualité et s'accouplent de préférence avec le meilleur d'entre eux, le plus grand, le plus fort, le plus viril, le plus beau, avec des signaux colorés chez certaines espèces, qui est susceptible d'apporter les meilleurs gènes à la descendance et d'assurer la prospérité de la population.
Donc finalement,
car le souci, il est collectif.
Oui.
Et le poisson ne s'identifie pas à titre personnel, mais en tant que représentant d'un ensemble populationnel dont il est le garant de la continuité. D'ailleurs, il y a globalement une différence entre les comportements des mâles et des femelles. Les mâles ont tendance à disposer d'un potentiel important avec une profusion de spermatozoïdes produits, des millions par millimètre cube, et ils ont tendance souvent à chercher à semer à tout va, sans l'aspect quantitatif l'emportant sur le souci de qualité. Et ce sont les femelles qui sont en quelque sorte les gardiennes du temple génomique qui, elles, sont soucieuses de la qualité de la descendance. Donc, dans leur union, leur préoccupation, c'est les meilleurs mâles, les meilleurs gènes et les meilleurs descendants. Si vous voulez, on peut résumer la chose en disant que les mâles proposent et les femelles disposent.
Mais alors, si un mâle ne fait pas partie de la catégorie des champions, toute catégorie, est-ce qu'il peut user d'autres charmes pour quand même pouvoir lui-même assurer une descendance?
Bien sûr. Même si on peut partir de l'idée que les plus petits, les plus faibles et les plus laids sont a priori éliminés, ils n'abandonnent pas pour autant la partie et on a ce que l'on appelle des comportements alternatifs où, dans les populations, il y a à la fois des mâles dominants qui expriment leur force et leur aptitude à convaincre les femelles, et puis les autres qui sont plus faibles, qui sont subordonnés, qui sont souvent stressés avec un taux d'hormones de stress, de cortisol élevé, et qui, ce qu'ils n'obtiennent pas par la force, ils vont chercher à l'obtenir par la ruse. Et alors on a ce que les anglo-saxons appellent des sneakers, des chapardeurs, des voleurs de fécondation, ou grossièrement des cocufieurs, qui tentent à s'approcher du couple roi et à émettre un peu de sperme dans la proximité du mâle dominant pour participer à la fécondation et donner leur gène à une petite partie de la ponte. Et d'ailleurs, les poissons peuvent, même certains individus, alterner le comportement de force et le comportement de ruse pour parvenir à leur fin.
Quand vous dites la force, vous utilisez ce mot-là, avec Jean-Pierre Quignard dans vos livres, vous parlez de viol finalement, c'est juste une image?
Non,
peut effectivement aller jusque-là dans ce monde des poissons?
Oui, non. La plupart des comportements sont des comportements courtois, des comportements de séduction. Et ils utilisent des atouts de couleur, de taille, etc. pour se mettre en valeur. Ceux qui n'y parviennent pas, parfois, peuvent aussi user d'arguments plus violents et les fameux guppies, hein, qui sont souvent les espèces cibles des aquariologistes et sur lesquelles reposent beaucoup d'observations, démontrent qu'ils peuvent se transformer en bêtes de sexe avec des tentatives d'accouplement et de copulation même, puisqu'ils ont un organe inséminateur, le gonopode, à raison de plusieurs dizaines de fois par minute, au point que les pauvres femelles harcelées peuvent en perdre le temps de s'alimenter et peuvent dépérir. Oui. Et puis alors, il y a les amours plus violentes des requins qui paraissent des barbares, puisqu'ils utilisent leurs mâchoires pour saisir les femelles, avec les risques que cela comporte en matière de blessures, qui peuvent entraîner un écoulement sanguin et induire une sauvagerie généralisée, car l'odeur du sang fait oublier au mâle leurs aptitudes sexuelles au profit de l'alimentation vorace.
Allez, retour dans ce monde, ce lieu des amours, pas toujours tendre.
Le brochet y trouve son compte. Il a besoin de ses herbiers situés en eau peu profonde pour déposer ses œufs. Les mâles se rapprochent des femelles plus grosses uniquement en période de reproduction. Il peut y avoir plusieurs prétendants lorsque la femelle est de grande taille. Les mâles accompagnent la femelle dans un ballet tendre et harmonieux. D'un coup de nageoire caudale, la femelle expulse ses œufs et immédiatement après les mâles les recouvrent de leur laitance. Les œufs sont ensuite abandonnés à leur sort. Les jeunes brochets écloront au bout d'une dizaine de jours.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Voilà, on a suivi un petit peu le brochet là, dans cet extrait du film Jungle d'eau douce, la vie secrète des gravières, un documentaire diffusé sur Arte en 2012. On se rend compte qu'il y a effectivement, je disais, un foisonnement de comportements, mais aussi de façons de procéder à cette procréation. Là, voilà, une méthode. Est-ce que il y a des méthodes spécifiques, particulières ou assez étonnantes dans cet univers des poissons?
Oh oui, oh combien. Les poissons ont fait parfois acte d'inventivité. L'un des exemples que l'on peut citer, c'est celui de carassin vénézuélien. Donc, vous voyez, il a fallu qu'il y ait des observations dans les eaux vénézuéliennes. Un carassin qui possède un appendice particulier qui se développe sur les volets operculaires et qui ressemble un peu à un filament terminé par une excroissance qui imite l'insecte préféré dans l'alimentation des femelles. Et le mâle se présente et agite devant ses congénères potentiels cet objet qui imite soit une fourmi, soit un scarabée. Et les femelles gourmandes s'approchent pour voir s'agiter ce leurre de pêche. Et c'est un moyen pour le mâle de les voir, de les approcher et de les séduire. C'est un des exemples. Maintenant, il y a le priap du Mékong qui a un système de pinces près de la mandibule et qui parvient à saisir la femelle, un peu par la force, à la coincer au-dessous de sa tête pour que les orifices génitaux soient voisins, ce qui facilite bien sûr la fécondation lors de l'émission des gamètes. Ouais. Ouais.
Et puis après, il y a effectivement ce devenir aussi des œufs, hein, une fois qu'ils apparaissent. Il y a ces œufs qu'on laisse sur des zones des gravières, mais sous surveillance. Oui. Il y a les œufs qui restent dans la bouche des poissons mâles, ceux qu'on dépose sur des feuilles extérieures. Alors là, c'est étonnant, l'acrobate. Racontez-nous
qui
ça,
se complique
peut-être.
La vie. Ouais. Là aussi, c'est dans les eaux amazoniennes. Ce sont des couples de petits poissons qui ne se reproduisent pas dans l'eau. Ils font des sauts hors de l'eau sur le feuillage qui surplombe les rives et ils s'accolent au-dessous d'une feuille furtivement pendant quelques secondes, le temps de déposer les œufs et de les féconder, après quoi ils retombent dans l'eau. Mais les pontes risquent de se dessécher et le mâle, c'est lui qui fait le travail, par des battements de nageoires caudales, arrose la pente pour la maintenir humidifiée pendant les quelques 60-70 heures que dure l'incubation. Et les œufs donnent naissance à des larves qui tombent dans l'eau. Il pleut des larves dans les eaux amazoniennes. C'est original.
Alors, on a parlé des congénères de sexe opposé, donc de même espèce. On sait qu'il y a aussi des poissons d'espèces différentes, finalement, qui s'accouplent. Des congénères de même sexe aussi.
Oui, alors ça, l'homosexualité a toujours été considérée comme quelque chose de surprenant chez les animaux. Elle existe chez les poissons, mais on peut considérer que ce n'est pas une vocation. C'est un résultat de l'impossibilité qu'ont les mâles quand ils sont surnuméraires et que donc un déficit en femelles, ne pouvant s'accoupler avec ses partenaires femelles, eh bien, ils ont un instinct sexuel qui les amène à chercher à s'accoupler entre eux. C'est comme cela que les jeunes mâles peuvent faire leurs premières armes. On peut provoquer d'ailleurs cette tendance à l'homosexualité en élevant des poissons dans une seule même catégorie sexuelle. On met des mâles entre eux et il y a toute une éducation qui doit se faire. Ils ont peur des femelles quand après on les met en contact de celles-ci et ils apprennent à apprécier le sexe faible. Mais ça n'était pas toujours naturel, ce ne sont pas toujours des autodidactes.
Par contre, il y a les autosuffisants. Oui. Donc, ils n'ont pas besoin d'un partenaire pour se reproduire.
Alors, c'est vrai qu'il existe une catégorie de poissons dits hermaphrodites qui ont une gonade mixte, ovotestis, avec une aptitude à produire des spermatozoïdes par une partie testiculaire et émettre des ovocytes par une partie ovarienne. Bon, ça existe chez les cérans et il ne faudrait pas croire qu'ils soient simplement autoféconds. Parce que s'ils étaient seulement autoféconds, il y aurait une dégénérescence génique parce qu'il n'y aurait pas de renouvellement par des gènes nouveaux. Et c'est pourquoi il y a quand même des fécondations croisées. Chacun se comporte comme un mâle en émettant du sperme, comme une femelle en émettant des ovocytes, mais avec des fécondations croisées, de sorte que les partenaires apportent des gènes nouveaux qui évitent la bâtardise des populations.
Ah oui, la nature est bien pensée.
Et chez certains autres poissons, il y a dans les populations d'hermaphrodites quelques mâles qui utilisent les ovocytes des hermaphrodites pour assurer le renouvellement génique. Et donc, la santé génique des populations, c'est quelque chose de très important. Sinon, on va vers une dégénérescence progressive. Il faut des apports de gènes nouveaux. C'est pourquoi les poissons sont souvent très échangistes. Et ils sont polygames, ils sont polygynes, enfin voilà. Alors on pourrait mettre des jugements en trouvant que c'est une certaine débauche. Mais en réalité, il y a un fondement biologique majeur. C'est grâce à cette multitude d'accouplements variés que la santé génique des populations est préservée. Il faut des gènes nouveaux. On sait en particulier chez les saumons. Les saumons du Pacifique, qui sont souvent surpêchés, ont conduit à ce que certaines populations se deviennent limitées en nombre. On connaît des rivières de l'Oregon ou de l'Alaska où il ne reste que quelques dizaines de géniteurs qui remontent les rivières et qui se retrouvent sur les frayères. Il y a trop de consanguinité. Eh bien, heureusement qu'ils ne respectent pas la tradition qui fait que chaque saumon remonte en principe dans sa rivière natale et rejoint sa propre population, eh bien, il y a des erreurs de GPS qui font que, heureusement, il y a des saumons de rivières différentes qui parviennent à pénétrer dans les rivières où il y a un déficit numérique en certains éléments et ils apportent le pool génique nécessaire à la disparition, finalement, de l'espèce dans certaines rivières.
Et puis, il y a ceux qui peuvent changer de sexe. Avant d'aborder ce sujet, je vous propose d'écouter cet extrait du film Poisson Clown, Star en Péril, de John Boyle, diffusé sur France 5 en 2011.
Ces poissons ont une structure sociale étonnante, avec une hiérarchie familiale très stricte. Le plus gros poisson du groupe est une femelle. Ensuite, il y a le mâle, avec qui elle forme le couple dominant, puis trois ou quatre mâles plus petits, qui vivent avec eux. Chaque membre du groupe est un peu plus petit que celui qui est juste au-dessus de lui. La hiérarchie fonctionne comme ça, du plus gros au plus petit. Seuls les deux plus gros se reproduisent. Les autres attendent leur tour. Si le mâle dominant disparaît, le suivant, dans la hiérarchie, monte d'un cran et prend sa place. Il devient mature et s'accouple avec la femelle. Si la femelle dominante disparaît, si elle meurt de vieillesse ou est capturée, le mâle dominant change de sexe et la remplace. Ensuite, l'un des mâles immatures devient mature. Et tout le monde monte d'un cran dans la hiérarchie.
Ces poissons clowns, Jacques Brûlé, c'est vraiment une exception où on focalise un petit peu sur ce poisson parce qu'il est emblématique aussi, hein,
oui,
c'est Nemo. Mais...
Oui, il est bien connu, c'est Nemo. Mm. Mais dans Nemo, on n'évoque pas sa reproduction générale. Mm. Bon, c'est vrai qu'il y a une hiérarchie sociale tout à fait remarquable en faveur du matriarcat. C'est vraiment la femelle qui est la maîtresse des lieux. Alors, il faut bien penser que les scénarios de reproduction se déroulent au sein même des tentacules d'une anémone de mer, donc dans un micro-habitat très fermé. Donc la femelle est dominante, elle est ce que les biologistes appellent en position alpha, et le mâle, qui est plus petit qu'elle, en position bêta, est dominé, mais il fait son travail et il assure la prospérité de la descendance. Et puis, il y a tous les autres en position delta, gamma, etc., qui sont totalement inhibés sexuellement et qui sont stériles jusqu'à ce qu'un espoir de levée d'inhibition se produise si l'accident fait disparaître l'un ou l'autre du couple dominant. C'est vrai. Alors c'est assez remarquable. Et alors ce qui est curieux, entre autres, c'est que si la femelle disparaît, souvent par prédation, donc le mâle accède à une promotion au matriarcat, et il faut quand même plusieurs semaines pour qu'un testicule se transforme en ovaire. Et malgré tout, alors même qu'il n'a pas encore la gonade femelle fonctionnelle, il adopte le comportement dominant de la matriarche. C'est-à-dire que très vite, des hormones femelles, des hormones estrogènes l'emportent et lui permettent d'assurer sa dominance. De sorte qu'il n'y a jamais de vacances de pouvoir. Très vite, la population ne peut pas se passer d'un chef ou d'une chef, parce que chez d'autres espèces, c'est le mâle qui est dominant et qui se comporte en despote. Et là aussi, il y a des femelles qui peuvent devenir des mâles pour assurer la prospérité du groupe, de la société. Le poisson n'est pas maître de son destin sexuel, en quelque sorte. C'est la demande sociale qui crée le besoin pour lui de répondre et d'être fonctionnel le plus vite possible.
Allez, on poursuit cette conversation avec vous, Jacques Brûlé, dans un instant.
Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage. Et on voudrait bien changer au cours du voyage ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne l'orage, qu'apporterait du ciel bien plus qu'un message. Et pour échanger d'un coup au cours du voyage des plumes en écailles, des ailes en chandail, des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau?
C'était Juliette Gréco, Un petit poisson, et c'est la suite de notre émission de Cause à effet sur France Culture, consacrée aujourd'hui à la sexualité des poissons, à leurs comportements amoureux, ingénieux, étonnants, et qui donnent à penser et à méditer aussi. Et c'est avec le professeur Jacques Brûlé, professeur émérite à l'Université de Perpignan, que nous en discutons aujourd'hui. Il est l'auteur, avec Jean-Pierre Quignard, du livre La vie sexuelle des poissons, livre paru chez Belin, et également du livre Pas si bête les poissons, autre livre édité chez Belin que vous pouvez désormais acheter aussi en version poche.
Enfin toilettée, la murène part en quête d'une partenaire. Celle-ci est indifférente. Qu'importe, le mâle continue. Il connaît très bien le coin. Cette femelle ne semble pas hostile. Le mâle se rapproche petit à petit. Le fait de montrer les dents n'est pas synonyme d'agressivité. Un petit câlin et la femelle consent à partir en balade. Le mâle est devant. Entre les deux murènes, c'est le coup de foudre. Elles accomplissent un rituel destiné à tester et stimuler le désir de s'accoupler.
Et oui, ce désir de s'accoupler, y compris chez les murènes. Les murènes, hein, c'est pas trop tentant quand même, hein, en général, comme poisson. Quand on est face à une murène sous l'eau, on se sent pas complètement en sécurité, hein, toujours. Oui, elles sont plutôt réputées pour être agressives. Et puis, voilà.
Il faut leur chercher querelle.
C'est vrai.
Oui.
Bon.
On ne se précipite pas comme ça sur les plongeurs. Merci.
Alors, Jacques Brûlé, est-ce que à ces poissons, on peut leur attribuer, malgré tout, dans ce qui ressort d'un souci premier de procréation et d'assurer la descendance, est-ce qu'on peut leur attribuer des jeux sexuels liés à un certain plaisir ?
Oui, il semble que les poissons, en certaines occasions, manifestent un certain plaisir à se séduire, à se fréquenter et à s'accoupler. On assiste à certaines scènes de bacchanal où les carpes en particulier se frétillent et font bouillonner le milieu, d'ailleurs pour leur plus grand danger, parce que les prédateurs sont alertés. Bon, est-ce pour autant qu'on puisse parler d'extase et de septième ciel chez les poissons? On ignore tout de leur libido et de leur satisfaction.
Et oui, parce que tout dépend de la chimie cérébrale aussi.
Oui, alors il est évident qu'il ne faut pas oublier que tout est déterminé dans le cerveau. Bon, ils n'ont pas d'hémisphères cérébraux et à ce titre, on les a considérés souvent comme des inférieurs par rapport à nous. Mais ils ont quand même un télencéphale, ils ont quand même un nerf optique, un toit optique qui contient des neurones qui sont ciblés par les hormones androgènes ou estrogènes et qui déclenchent des cascades d'événements neuro-hormonaux. Et ils possèdent comme nous de la dopamine, l'hormone du plaisir, la vasotocine, et tout un arsenal de molécules chimiques qui déterminent leur comportement.
Oui, d'ailleurs, il faut souligner qu'on les utilise aussi pour des tests de médicaments destinés à l'homme. Donc ça veut dire que quelque part, il y a cette proximité aussi qui fait qu'on peut se dire qu'ils peuvent ressentir aussi des choses. Mais pour l'instant, la science n'a pas suffisamment avancé, Jacques Brûlé.
Ah non, non, non. On connaît des cellules cibles qui sont tout à fait identifiées et qui ont des caractéristiques non seulement morphologiques mais physiologiques tout à fait comparables à celles des vertébrés supérieurs. En cela, les poissons ne sont pas handicapés. Et certaines neurohormones sont testées, on peut les associer à des substances fluorescentes, et dans le cerveau de certaines larves de poissons, on peut faire une cartographie des neurones lorsqu'ils sont excités et qu'ils répondent à des sollicitations environnementales. Donc on a une cartographie neurohormonale qui ne cesse de progresser et qui finalement les situe beaucoup plus haut que ce que l'on a longtemps imaginé.
Par contre, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont des sentiments, des émotions ?
Non, c'est très difficile. Ce sont les salmonidés qui ont fait beaucoup fantasmer les observateurs, parce que lors des accouplements de truites ou de saumons, le mâle, au moment où il émet sa laitance, ouvre largement la bouche. Alors certains y ont vu une forme d'extase. Il semblerait que ce soit simplement pour assurer une meilleure oxygénation, pour qu'il reprenne son souffle. C'est beaucoup plus terre-à-terre et beaucoup moins poétique et romantique que ce qu'on aurait voulu leur attribuer.
Par rapport à tout ce qu'on a pu dire ensemble, Jacques Brûlé, et justement de ces techniques d'approche ou de résistance, etc. Est-ce que finalement c'est de l'inné ou de l'acquis ? Est-ce que les adultes enseignent ces choses aux plus jeunes ou est-ce qu'on peut parler de ça ? D'une éducation à la sexualité ?
Oui, oui, oui. La part de l'inné est considérable, c'est certain, mais on a bien démontré que les juvéniles ont besoin d'acquérir une expérience au contact de leurs adultes. Et la notion même de copiage de comportements, d'apprentissage des comportements, est fondamentale dans la vie d'un poisson. Ils ne sont pas toujours capables de bien s'alimenter, de bien se reproduire par leur propre inné, ou alors ils mettent davantage de temps. Et c'est par l'observation de leurs congénères, par cette forme d'observation de démonstrateur, qu'ils acquièrent les bonnes façons, en particulier de choisir les bons partenaires. C'est toute une éducation.
Jacques Brûlé, il y a des mystères qui restent encore non élucidés aujourd'hui. On pense forcément aux anguilles qui vont en mer des sargasses et du coup pour s'y reproduire et en même temps aussi pour y mourir.
La preuve de leur mort n'est pas apportée, pas plus que celle de leur survie d'ailleurs. Il paraît étonnant que nous en soyons toujours à ignorer ce qui se déroule dans la mer des sargasses elle-même. On ne connaît de la reproduction des anguilles que le résultat. La récolte des œufs et des larves, et on date l'âge de ces larves et on connaît un peu le scénario de leur développement. Mais le comportement même des géniteurs reste inconnu. On ignore beaucoup de leur migration de trajet aller. Bon, le trajet retour, on ne le connaît que sous les formes larvaires. Mais ce qui est absolument stupéfiant, c'est que pendant longtemps, on s'est dit, toutes les anguilles du monde, enfin, de la même espèce, en l'occurrence européenne, se reproduisent toutes dans la même zone du triangle des Bermudes, et on les imaginait, grâce à la panmixie des anguilles, les amener à toutes se reproduire en même temps sur le même lieu. Et on sait maintenant qu'il y a un particularisme ethnique, géographique. Les anguilles baltes ne sont pas les mêmes que les anguilles anglaises, que les anguilles du golfe de Gascogne, que les anguilles marocaines ou méditerranéennes. Chacune doit avoir une aire de reproduction et maintient son caractère ethnique de façon à ce que les larves qui utilisent les courants du Gulf Stream se dirigent dans la bonne orientation finale. Et il n'y a pas de mélange entre une anguille balte et une anguille anglaise, une anguille marocaine. Elles ont chacune leur tracé de migration et ça suppose qu'elles se sont rencontrées en maintenant leur particularisme géographique.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'esprit de famille, Jacques Brûlé ?
Ah oui, oui, probablement, oui, oui. Il y a probablement des stimuli olfactifs qui les amènent à s'identifier et à se reconnaître en tant que appartenant à une même population ou appartenant à des populations différentes. Et elles ne se mélangent pas. Elles maintiennent la primauté de leur origine génétique.
Alors qu'est-ce que ces poissons réussissent mieux que nous, selon vous ?
Ils réussissent à être prospères et à démontrer qu'ils ont résisté à l'épreuve du temps. Hein, 350 millions d'années, ils sont toujours là. Ils ont connu des périodes critiques sur le plan climatique, avec entre autres les glaciations quaternaires. Ils ont connu des périodes difficiles, mais ils sont toujours là, mais ils sont quand même en péril parce que les activités humaines peuvent porter gravement atteinte à leur intégrité, et en particulier à leur intégrité sexuelle. On sait le rôle néfaste de certains polluants, le perchlorate, le rôle des perturbateurs endocriniens. Hein, notre planning familial peut porter gravement atteinte au développement du sexe mâle de nombreuses espèces d'eau douce. Survivront-ils à tous ces aléas ? C'est une question qui peut se poser.
Au plastique qui pollue les océans.
Parce que les événements se précipitent.
À la surpêche.
Et s'ils ont su évoluer dans le temps, sur des millions d'années, pourront-ils le faire sur quelques décennies ? C'est une autre affaire.
Fascinant poisson, en tout cas Jacques Brûlé. Et si on veut les conserver, bien sûr, préservons notre environnement. Merci de nous avoir donné ce panorama, ce Kama Sutra, je le dis parce qu'on le lit quand même dans votre livre, le terme utilisé, ce Kama Sutra des poissons. Eh bien, restez avec nous justement pour la seconde partie de l'émission Jacques Brûlé, ça va vous intéresser forcément.
C'est une méthode de pêche redoutablement efficace, peut-être un peu trop. Cela commence à la surface de l'eau, un simple radeau composé de quelques morceaux de bambou. La construction paraît anodine, elle est en fait un vrai piège à poissons. On appelle ce radeau un DCP, un dispositif de concentration de poissons. Sans que les scientifiques sachent vraiment pourquoi, les poissons s'agglutinent près du radeau et tournent autour pendant plusieurs jours. Une aubaine pour les pêcheurs qui n'ont plus qu'à jeter leur filet et capturer un maximum de poissons, généralement du thon. Si la technique est efficace, elle est aussi dévastatrice selon l'association Greenpeace. Car avec les DCP, tous les poissons sont capturés, sans exception. Ces dernières années, le nombre des DCP progresse sans cesse. Il y en aurait 120 000. Chaque année, 2 millions de tonnes de thon sont prélevées grâce à cette technique. C'est la moitié de ce qui est pêché dans le monde. Si certains pêcheurs tentent de protéger la ressource, il n'existe pour l'heure aucun quota de pêche pour les thons tropicaux.
Seconde partie, les échos de la Terre en partenariat avec le service Planète Science du Monde, dont les contenus, je vous le rappelle, sont à retrouver bien sûr chaque jour dans le quotidien, mais aussi sur le site. Et j'en profite pour vous signaler l'article écrit par Marie Bourreau, correspondante du Monde à New York. Son article écrit sur la position de l'ONU adoptée le 9 juin dernier en faveur des océans, ces océans menacés par la surpêche, la pollution et le réchauffement climatique, à lire donc sur lemonde.fr. Bonjour Claire Nouvian.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, documentariste, fondatrice de l'association Bloom, présidente de l'association, moi je ne me suis pas trompée. Très impliquée bien sûr sur la défense des fonds marins et pour une pêche durable. Je cite votre livre commis en 2006 et publié chez Fayard qui s'appelle Abyss, avec des photos magnifiques, hein, 200 photos de ce monde méconnu. Et cet univers, les abysses, je crois le savoir, qui avait déclenché effectivement chez vous notamment une énorme prise de conscience, hein, de ce que la main de l'homme pouvait faire sur ces fonds marins. Et donc cet engagement qui est le vôtre pour essayer de préserver ces espèces, les océans, et faire en sorte que la surpêche ne malmène pas plus que cela l'environnement déjà bien malmené. Alors le 8 juin dernier, on le rappelle, c'était la journée mondiale des océans. Et donc il y a cette décision de l'ONU, hein, prise sur le thème « L'océan, notre avenir », adoptée donc le vendredi 9 juin au soir par l'Assemblée générale des Nations Unies à l'issue de la première conférence sur l'océan qui s'est tenue à New York. Un moment important, on peut dire. Rappelez-nous, qu'est-ce qui s'est passé?
Vous savez, il y a ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Ce sont 17 objectifs qui ont été adoptés par les Nations Unies en 2015 et qui, s'ils étaient mis en œuvre tous, feraient de notre planète l'endroit le plus riant, sans doute, dans l'univers, et non pas une planète qui est en train de se consumer par les deux bouts, comme on est en train de le voir, avec des effets évidemment environnementaux dont on parle finalement beaucoup, même s'il y a peu d'action, mais avec des conséquences dramatiques pour les humains. Et je pense qu'il faudrait vraiment bien faire le lien sur le fait qu'évidemment ces crises majeures de l'environnement sont les causes principales des migrations, de la déstabilisation économique de toutes les communautés, que ce soit des crises rurales, agraires, ou évidemment les communautés de pêcheurs qu'on va déloger en fait en allant voler leurs ressources. Donc, en 2015, l'ONU adopte 17 objectifs qui sont vraiment des objectifs valeureux, de réduire, d'éliminer la pauvreté, la faim dans le monde, donner l'accès à l'éducation des filles de façon égale, voilà, tout est bien. Et l'objectif numéro 14 vise de faire en sorte que notre exploitation des océans soit durable. Et il y a des sous-objectifs dans cet objectif 14 qui est déjà un grand événement en lui-même. Et la conférence qui s'est tenue la semaine dernière à l'ONU à New York, du 5 au 9 juin, c'était une conférence qui visait justement à préciser la feuille de route de cet objectif 14 pour faire en sorte qu'on transforme notre relation à l'océan. Alors oui, c'est un événement. C'est un événement majeur parce qu'en fait, les Nations Unies n'ont quand même pas passé énormément de temps sur cette question de la vision qu'on voulait déployer par rapport à notre relation à l'océan. Et en effet, comme vous disiez, qu'il s'agisse de réchauffement climatique, de pollution ou de ce qu'on prend de l'océan. Il n'y a pas que ce qu'on y jette, il y a aussi ce qu'on en prend. Et alors, ce sont des ressources vivantes, les poissons entre autres, ou des ressources non vivantes, comme les minerais qu'on va trouver dans les grandes profondeurs des océans. Donc voilà, c'était un grand moment parce que pendant une semaine, on a vu toute la communauté internationale très active pour la défense des océans ou pour son exploitation. Et toute évidemment la question diplomatique, hein, tous les ambassadeurs et les chargés, les délégués à l'ONU étaient là, des 193 nations, et ils se sont mis d'accord sur une feuille de route en disant en effet, ces objectifs de développement durable sont indispensables. Il est absolument nécessaire de les mettre en œuvre sans plus tarder. Donc il y a des dates butoirs en face de chaque sous-objectif, hein, dans cet objectif numéro 14 pour les océans, ce qu'on appelle l'objectif océan. Eh bien, on a, par exemple, faire en sorte d'éliminer les méthodes de pêche qui sont destructrices pour les milieux marins. Et en face de chaque objectif, on a une date butoir. Donc après, ça va être un énorme enjeu parce que les dates sont, je vais vous dire, très ambitieuses. On a des dates butoirs à 2020 et de toute façon, la dernière date, c'est 2030.
Mais rien n'est contraignant.
Alors, c'est l'ONU.
Oui,
ce n'est pas contraignant. Ça reste des engagements qui sont volontaires des États. Nous, on y était de façon précise pour vraiment militer très fortement pour ce qui nous tient à cœur. Et pas parce que c'est une relation affective à cet objectif, mais simplement parce qu'on pense que c'est l'objectif le plus stratégique. L'objectif 14.6 de cet objectif de développement durable dit qu'on doit éliminer les subventions. Donc, les subventions publiques que les gouvernements nationaux donnent chacun à ces flottes de pêche, en général industrielles, parce que les industriels de la pêche, 80% des subventions publiques dans le monde.
Et donc, ils sont responsables en grande partie de cette surpêche et des dégâts faits dans les fonds marins, etc.
Bien sûr. Mmh. Et puis, voilà. Donc, on se retrouve avec cet objectif d'éliminer d'ici 2020 les subventions qui encouragent la surpêche, qui encouragent la pêche illégale et qui, du coup, encouragent la pression de pêche trop importante qu'on a sur des stocks de poissons qui sont exsangues et évidemment qui sont liés, cet objectif est lié à l'ensemble des objectifs de développement durable de l'ONU parce que évidemment ça précipite la faim dans le monde, la déstabilisation politique, les flux migratoires. Donc on a un intérêt collectif à gérer cette ressource vivante dans les océans. Et la pente va être raide, hein, je vous le dis tout de suite, parce que d'ici 2020, c'est très simple, on se retrouve pour le coup avec un des objectifs de l'ONU qui a des dents, parce que les autres n'ont pas de dents, comme vous disiez. Mmh. On est quand même dans une loi qu'on appelle molle, en anglais, on appelle ça le droit mou. Et c'est du droit mou, hein. Il s'agit ensuite pour les nations de prendre à bras-le-corps ce défi, mais de façon
volontaire. De s'engager, oui.
Alors que l'objectif 14.6 qui veut éliminer les subventions, c'est un objectif qui fait explicitement référence à l'OMC, c'est-à-dire à l'Organisation mondiale du commerce. Et il s'agit d'un des seuls traités mondiaux qui soit, pour le coup, contraignant juridiquement. Vous savez que les règles du commerce international sont dictées par l'Organisation mondiale du commerce. Et il ne s'agit pas d'y déroger, parce que pour le coup, on est sanctionnable et sanctionné. Donc si l'OMC, ça tombe bien, l'OMC se réunit tous les 2 ans, ce sont les ministres du commerce qui se retrouvent entre eux et qui négocient, vous imaginez bien, âprement. Ce sont des négociations qui sont longuement préparées en amont par les ambassadeurs qui siègent à l'OMC à Genève. Et ils peuvent se mettre d'accord, la prochaine réunion est en décembre 2017 à Buenos Aires, en Argentine, ils peuvent se mettre d'accord sur cet acte fondateur du renouveau de notre rapport à l'océan, d'éliminer les subventions qui sont néfastes et qui encouragent la surpêche.
En sachant que ces subventions s'élèvent à 18 milliards de dollars par an.
Oui, c'est-à-dire que ça représente 60% des subventions qui sont données dans le monde. Donc 60% des subventions publiques qui sont attribuées par les gouvernements sont des subventions qui encouragent la surcapacité. On a un outil totalement surdimensionné. On a beaucoup trop de bateaux, beaucoup trop efficaces. Ils peuvent trouver le poisson à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Évidemment que, donc, il y a un professeur de Daniel Poli, un professeur franco-américain qui a dit, on a déclaré la guerre aux poissons et on l'a gagné. Technologiquement, il n'y a plus une seule chance pour les poissons de gagner cette guerre. Donc voilà, maintenant, on est vraiment dans l'ère de la responsabilité.
Et donc l'idée, c'est de retrouver aussi un autre rapport à cette pêche, c'est-à-dire une pêche plus respectueuse, plus durable. Je vous propose d'écouter ce document, c'est l'extrait du journal de France 3, diffusé le 8 juin 2015. Il s'agit justement d'aller à la rencontre d'un pêcheur de Sainte-Marine dans le Finistère, un ligneur depuis 30 ans.
Les plaisanciers dorment encore sur les ports de Sainte-Marine et de Bénodet quand Gwen Pellarin rejoint son bateau. Cela fait 30 ans qu'il part en mer plusieurs fois par semaine pour aller pêcher du bar. Il y a 20 ans, il y avait encore 200 pêcheurs à la ligne. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une soixantaine. Car les stocks de poissons de cette espèce sont épuisés.
Je suis tout seul aujourd'hui, on pouvait être 30-40 bateaux au même endroit avant.
Et tout le monde trouvait du poisson.
Pour attraper quelques barres, Gwen Pellarin doit donc sillonner de plus en plus loin toute cette zone autour des Glénans.
Bah là, je fais le tour du point où on les a eus hier, là. Pour l'instant, il n'y a rien du tout.
Et puis sa patience va finir par payer. Les pêcheurs à la ligne comme Gwen ne sont pas responsables de la surpêche. Mais eux aussi vont devoir limiter leur prise à partir du 16 juin. Une tonne par mois et par bateau, soit 7 à 800 poissons. Les chalutiers, eux aussi, vont se limiter à 1 tonne 5, ce qui va les dissuader de sortir. Le bar sauvage va devenir une denrée rare.
Vous allez trouver un peu de bar de filet, vous allez trouver du bar de ligne, et vous allez malheureusement trouver beaucoup de bar d'élevage.
À la criée, le cours du bar de ligne est déjà à la hausse. 25 euros le kilo, 10 de plus qu'il y a un an. Gwen vend une partie de sa pêche à des restaurants gastronomiques. Les seuls à proposer ce plat, le bar de ligne devient un luxe.
Claire Nouvian, il faut peut-être rappeler, hein, en France, on compte 13 300 pêcheurs en métropole, hein, sur 16 900 d'une manière générale, donc pour la France. Et entre 2008 et 2013, 2500 emplois ont été perdus sur un secteur qu'on peut dire en crise. Alors c'est vrai que ce témoignage-là, cet exemple de ce ligneur depuis 30 ans est assez formidable dans le sens où ça va justement vers cette pêche éco-responsable qui devrait en fait avoir cours aujourd'hui. Et en même temps, on se dit que ces ligneurs-là, comment est-ce qu'ils peuvent résister dans l'univers actuel ?
Eh bien, vous posez le débat. De toute façon, il est très simple, hein, ce débat. C'est qu'on a des ressources qui sont limitées. Une fois qu'on a compris ça, ça va déjà mieux. On a amené les ressources à un niveau qui est exsangue. Et l'effort de pêche, alors que les stocks de poissons, parce qu'on parle de stocks, hein, c'est pas très poétique, mais c'est comme ça, les stocks de poissons sont effondrés. Au même moment où l'effort de pêche, donc le nombre de bateaux et la puissance hein, qu'ils déployaient sur les stocks de poissons, et c'est une courbe qui croise la première. Donc on a un effort de pêche qui va mais tout à fait vers le haut, alors que pendant ce temps, les populations de poissons s'effondrent. Donc la question, elle est résolue par un enfant de CM2. On lui dit alors comment on fait ? Ben il va dire, il faut laisser les poissons se reconstituer de façon à ce que les pêcheurs puissent peut-être avoir une économie viable et une activité qui dure dans le temps. Or, c'est pas du tout ça qu'on fait. Donc aujourd'hui, on a un effort de pêche qui est vraiment mais comme collé au plafond et les stocks qui se trouvent très bas et qui sont très mal. Donc en gros, on a 10% des stocks qui sont gérés de façon à peu près durable. C'est rien, hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment très très bas. Et alors
Sachant qu'il y a eu des améliorations quand même, Claire Nouvian, hein. Je rappelle, en 2005 par exemple, je crois que 94% des stocks européens de poissons étaient surexploités. Aujourd'hui, on a diminué à 40% à peu près des stocks.
Non, alors ça, ce sont des chiffres, donc j'adore tronqué, ces chiffres.
Que l'on retrouve dans des articles de presse fondés.
Oui, ça a même été communiqué par le ministre des Pêches à l'époque. On a dû faire une communication parce qu'il avait dit ça à l'Assemblée nationale, clairement pas très au fait de ses propres statistiques.
C'est faux.
En fait, ça dépend toujours. Les statistiques, c'est merveilleux parce qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Ça dépend de l'assiette de référence. Donc, ils ont pris les stocks qui étaient connus. Donc, connus et gérés. Voilà. Donc, quand on a les stocks où on a un avis scientifique qui est fiable, là, en effet, on se retrouve avec des chiffres qui sont merveilleux, ça fait rêver. Mais si on prend l'ensemble des stocks européens, on arrive à 9% précisément de poissons qui sont pêchés de façon durable.
D'accord.
Donc c'est pas du tout la même histoire. Et du coup, c'est pas la même histoire de réussite politique. Hein. Quand on est un politique, on veut aller clamer haut et fort que les politiques publiques marchent. Alors, il se trouve qu'elles marchent. C'est-à-dire que l'Europe a quand même pris quelques décisions, notamment par exemple sur les subventions. En Europe, on n'a plus le droit de construire des bateaux avec de l'argent public. Et donc, ça permet quand même de commencer à enrayer cet effort de pêche, cette capacité de pêche qui est complètement délirante. En revanche, on voit que les tendances commencent à aller un petit peu mieux, ce sont des tendances. Donc tout va plutôt mal, on est encore en crise, mais si on maintient cette tendance, on peut tout à fait sortir le secteur de la pêche de sa crise. Par contre, ce qu'on ne fait pas, et c'est vraiment un gros problème, c'est qu'on ne pose pas la question de la pêche qu'on veut avoir. Et ça, c'est une question que nous, on pose publiquement. Parce que est-ce qu'on veut avoir plusieurs ligneurs, en effet, sur, par exemple, deux bars sur une ressource qui a une forte valeur commerciale, qui a un goût exceptionnel et que tout le monde veut avoir dans son assiette? Est-ce qu'on laisse quelques pêcheurs qui font de la ligne, une méthode de pêche très sélective, avec des types qui vont travailler à la journée, qui rentrent chez eux, qui sont sur les territoires, ou est-ce qu'on laisse faire des chalutiers pélagiques qui, en une semaine, vont capturer ce que des ligneurs de bar vont capturer en un an ? Donc la question que nous, on pose, c'est quelle est la pêche qu'on veut ? Et donc, en fonction de ça, répondons-y de façon collective et publique. Et en fonction de ça, on va pouvoir décider à qui devraient aller les subventions et à qui devraient aller l'accès à la ressource. Parce que vous savez, les poissons, personne ne les plante. Ça appartient à personne. Si vous voulez faire de l'agriculture formidable, vous, demain, vous, dans votre lot Panthère, vous achetez vos graines Cocopelli, et puis c'est parti. Vous allez faire une production magnifique et personne ne peut vous en empêcher. Les pêcheurs, eux, ils doivent aller supplier une organisation de producteurs, le comité des pêches, pour avoir accès à du quota et avoir des licences de pêche. Et là, je vous dis pas les magouilles qui se passent à l'intérieur de tout ça. Donc, ça a été d'ailleurs pointé du doigt par l'autorité de la concurrence en France. On est évidemment dans un système qui privilégie les gros et qui va au détriment des petits. Et franchement, dire que quand les pêcheurs disent « les pêcheurs vont disparaître », quand les pêcheurs de la petite pêche côtière, quand ils disent ça, ils ont raison. Par contre, quand les grands pêcheurs industriels utilisent les mêmes arguments pour dire on va disparaître, non. Non, eux, avec les subventions publiques, ils vont toujours s'en sortir. Donc vraiment, c'est une question de choix public.
Claire Nouvian, l'Europe a quand même peut-être obtenu quelques victoires, j'ai envie de dire. Et en même temps, c'est toujours fragile, on va le comprendre très vite, parce qu'il y a ces lobbies, bien évidemment, qui poussent, et on a le sentiment d'avancer à un moment et puis de reculer à un autre. En juillet 2016, l'Europe a interdit le chalutage en eau profonde, dans les eaux de la communauté européenne, donc ça veut dire au-delà de 800 mètres. C'est une victoire, d'ailleurs, de l'association Bloom, on peut le dire.
Oui, on peut le dire. Et
en même temps, il faut rappeler que cette demande d'encadrer la pêche avait été faite à l'ONU depuis 2006, donc ça a mis 10 ans. Finalement, est-ce qu'on peut quand même parler de victoire ou vous dites aujourd'hui c'est extrêmement fragile parce que ben, derrière justement les lobbies, les groupes industriels du secteur poussent et on risque de tout voir basculer.
Alors, je dirais deux choses. Je dirais que, un, attention, parce qu'avant de crier victoire, oui, c'était une victoire politique très nette, mais à peine on a le dos tourné que tout le monde se met à détricoter ce qu'on fait. Hein. Donc, vous êtes tranquille que d'ici quelques années, les lobbies qui sont à l'œuvre au Parlement européen ou dans les institutions vont évidemment essayer de défaire ce qui a été obtenu. Et deuxièmement, c'est que cette victoire, il a quand même, faut remettre les choses en perspective, on a mis 8 ans pour obtenir une interdiction d'une méthode de pêche qui est simplement une arme de destruction massive sur les écosystèmes les plus vulnérables. On allait pêcher des poissons jusqu'à 2000 mètres de profondeur avec des chaluts qui sont comme des bulldozers en acier. Non, mais c'était n'importe quoi. Donc, vous voyez, et en plus, on avait montré, en s'appuyant sur les comptes audités, déposés au tribunal de commerce des armateurs industriels, que ces opérations de pêche étaient déficitaires de façon chronique. Attention, malgré les subventions publiques qu'ils recevaient. Enfin, vous imaginez l'aberration? Et malgré ça, il a fallu 8 ans pour interdire cette méthode de pêche, vous imaginez? Là, on se dit, ah oui, en effet, en fait, la route est dure, elle est pleine d'épines. Parce qu'en fait, c'est un immense combat contre des lobbies qui sont évidemment immensément puissants. Et leur plus grosse puissance, c'est d'être dans un système installé où ils ont une complicité totale avec le politique, au sens de la sphère politique. Ils ont des relais politiques gigantesques à tous les étages de la fusée. Et le politique va évidemment piloter aussi la recherche publique. Donc bizarrement, les grandes questions cruciales, celles que vous posez, vous, quand vous interviewez un ligneur de bar et qu'on dit « est-ce qu'on peut faire un bilan objectif, un peu rationnel, économique, les impacts écologiques par rapport au bien-être des pêcheurs, par rapport à ce qu'ils gagnent ?» Mais ça, c'est pas possible en France. C'est impossible, parce qu'on est sous une chape de plomb, parce que la recherche publique est quand même, sur ces questions de pêche, elle est complètement verrouillée par le politique.
Merci Claire Nouvian. Je rappelle le titre de votre livre Abyss, que l'on trouve toujours paru chez Fayard. Et puis je renvoie aussi sur le site de votre association Bloom. Et je précise que dans le livre Et nous vivrons des jours heureux, on trouve un chapitre concernant justement les océans, la pêche. Et c'est cet ouvrage collectif paru chez Actes Sud en 2016. Merci de votre attention. Information, bibliographie avec l'aide de Vanessa Chang, les liens, la revue de Web Environnement de Anne Gouzon, les plus les moins de la semaine d'Anaï Morales. Tout cela est à retrouver sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, et sur le site internet du journal Le Monde. Vous pouvez réécouter l'émission, la télécharger, nous suivre sur Twitter, hashtag DCA Effet.